Va, bonsoir.
Bonsoir. À 5 mois des élections fédérales, notre baromètre électoral sonne comme un avertissement sévère. Au centre droit et aux socialistes, les radicaux chutent à un niveau jamais vu. Le PDC ne fait guère mieux, les socialistes sont à la peine. Nous aurons ces trois perdants ce soir pour réagir en direct. Les vainqueurs sont les Verts libéraux, l'UDC et le PBD. Analyse de Christian Favre en ce début de forum sur un sondage qui révèle un effet Fukushima. L'environnement et l'énergie passent au premier rang des préoccupations des Suisses. Et c'est dans ce débat énergétique que les écoles polytechniques se sont engagées pour la première fois aujourd'hui. Pas question de prendre parti pour ou contre le nucléaire, mais une manière de définir les grands axes de recherche en matière d'énergie renouvelable. En font-elles assez les hautes écoles suisses en la matière? On entendra le patron des EPF, Fritz Schisser, et puis la réaction d'un politique, ancien prof de l'EPFL lui-même, le PDC Jacques Nerinck. C'est un fleuron de l'industrie suisse qui est passé en main américaine aujourd'hui. Le fabricant suisse de prothèses Synthes a été racheté par l'américain Johnson & Johnson pour près de 20 milliards de francs. La Suisse doit-elle s'inquiéter de voir un centre de décision partir à l'étranger? Va-t-elle y perdre en impôts, en sécurité d'emploi, en résultats de recherche? Le protectionnisme ou le nationalisme économique cher à la France parfois n'aurait-il pas du bon dans certains cas? On en parle avec le professeur Olivier Crevoisier dans une quarantaine de minutes. En Syrie, l'armée maintient son emprise. Les événements sont observés avec un mélange d'espoir et d'inquiétude en Israël. La Syrie est un soutien des pires ennemis d'Israël, mais elle a l'avantage d'une certaine stabilité. Alors, Israël doit-elle se réjouir de la déstabilisation de son meilleur ennemi? On va voir ça avec le professeur israélien Ilan Greilzamer. Et puis, il pourra réagir à cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Un accord a été conclu entre le Hamas et le Fatah, les deux partis palestiniens. Un gouvernement d'union nationale devrait pouvoir être mis sur pied. Cet accord de paix qui bouge encore un peu plus l'environnement rapproché d'Israël au Proche-Orient. Ça ne va pas sans certaines questions décisives et existentielles du côté d'Israël. Et puis nous illustrerons la manière en Suisse dont l'écologie, la mobilité douce divise la droite. Une initiative genevoise en faveur des pistes cyclables soulève l'opposition des libéraux. L'occasion de confronter ce soir les frères ennemis à 18h40, un vert libéral face à un libéral pour débattre pistes cyclables et puis au-delà de ce que doit être un parti libéral urbain aujourd'hui. Le temps restera couvert et humide cette nuit et demain. Il fera 17 degrés au maximum, 18 vendredi sous la pluie. Le soleil revient ce week-end. La météo d'Éric Fauchère à 18h58.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
Le russe Pavel Brut a remporté aujourd'hui à Lezin la première étape du Tour de Romandie. Il endosse le maillot jaune de leader au terme d'une longue échappée, Pascal Turner.
Oui, Pavel Brut est un beau vainqueur pour cette première étape. Ce Russe de 29 ans a remporté en 2008 une étape du Tour d'Italie. C'est un coureur complet, bon rouleur et bon en montagne. Il a donc peut-être posé aujourd'hui la première pierre d'un succès final dimanche à Genève. Il s'est glissé dans la première accélération dès le départ de Martigny et avec trois compagnons d'échappée, il a creusé ensuite un gros écart dans les 50 premiers kilomètres. Puis le peloton a roulé trop mollement pour vraiment revenir et Pavel Brut a pu se débarrasser du Biélorusse Branislav Samoilov dès les premiers hectomètres de la montée finale entre le Sepet et Lezin pour s'imposer en solitaire. Dommage pour le Valaisan Steve Morabito qui a pu profiter en compagnie de son leader Cadel Evans du très bon travail de Johan Chop dans le col du Pillon. Mais Brut a pu franchir l'arrivée sans être inquiété par le peloton. Il endosse donc le maillot jaune de leader du classement général avec par exemple plus de 2 minutes d'avance sur les gros bras du peloton comme Alexander Vinokourov, Cadel Evans ou Damiano Cunego. L'étape de demain avec ses trois boucle autour de Romont sera donc décisive avec notamment l'ascension du Gibloux à 16 km de l'arrivée.
Merci Pascal Turner en direct du Tour de Romandie.
Il est 18h04 dans ce forum, le plaisir de recevoir Ilan Greilzamer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan près de Tel Aviv en Israël. Ilan Greilzamer, vous êtes avec nous pour évoquer ces questions qui concernent au premier chef Israël, en particulier la Syrie. Et puis cet après-midi, cette nouvelle qui vient de tomber, la Palestine avec une réconciliation, semble-t-il, entre les deux partis palestiniens, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza et puis le Fatah de Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Réconciliation, élection prévue, gouvernement d'union. Une réaction à chaud, Ilan Greilzamer.
D'abord, je suis très heureux de répondre aux questions de votre radio, d'autant que mon fils est le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Genève.
Eh bien, on vous en remercie.
Voilà. Alors, oui, j'ai écouté. D'abord, sur la première question, la Syrie, je crois que d'une façon générale, les Israéliens, nous regardons avec extrêmement, sujet de fascination plus que d'attention, ce qui se passe dans le monde arabe, que ce soit d'ailleurs la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, Bahreïn, etc. Ça concerne Israël, mais je crois qu'il y a un dénominateur commun ici, c'est que nous pensons tous qu'Israël ne doit surtout pas se manifester dans le courant de ces bouleversements du monde arabe. Il suffirait qu'Israël manifeste une certaine empathie publique à l'égard, par exemple, des manifestants de Daraa ou d'ailleurs, pour que ça les disqualifie. Il ne faut absolument pas qu'Israël ait l'air d'être mêlé à ces événements. Il y a évidemment beaucoup d'espoir, d'espoir que, après la chute de quelqu'un comme Bachar Assad, qui, à notre avis, viendra tôt ou tard, après cette chute, il y ait un gouvernement qui soit peut-être, plus facile d'accès à des négociations avec Israël. Mais on n'en sait rien. Et l'expérience de l'Égypte, par exemple, est un peu problématique, puisque vous savez peut-être que première chose dont est accusé Moubarak par les nouvelles autorités, c'est la signature de l'accord de livraison de gaz à Israël. Donc, il est possible que les renversements et les bouleversements mènent finalement à des gouvernements encore pires du point de vue
israélien.
Donc nous regardons, nous attendons. Je pense que la grande majorité des Israéliens sont très sympathisants de ces manifestants qui se font blesser, tuer, etc.
On a vu une attitude un peu ambiguë, Ilan Grelzamer, si vous le permettez. Vous citiez l'Égypte au début, le gouvernement a eu un peu peur de voir peut-être un régime pire, vous le disiez. Avec la Syrie, alors certes c'est un soutien de vos pires ennemis, Hamas, Hezbollah, alliés de l'Iran, mais en même temps, une certaine stabilité, ça rassurait aussi, non?
Oui, il y a certainement bien pire du point de vue d'Israël que ces dictateurs genre Assad. Et notamment, la grande peur, je crois, de beaucoup d'Israéliens, c'est d'une montée au pouvoir des forces islamistes, des forces fondamentalistes dans tous ces pays, de forces qui seraient liées à l'Iran de façon, je dirais, idéologique et symbiotique.
Vous y croyez, vous ?
Ah, Écoutez, c'est pas une question de croire. Par exemple, si on posait la question aux meilleurs spécialistes, qu'est-ce qui va se passer en Égypte dans les temps prochains? Est-ce que l'armée va rester au pouvoir? Est-ce qu'elle va le rendre aux civils? Personne ne sait, et c'est le drame actuel, personne ne sait la façon dont après ces révolutions, les choses vont se passer. Personne ne peut prévoir cela. Et ça peut être beaucoup mieux, ça peut être dans le sens de la démocratie et des droits de l'homme et de la stabilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des révolutions qui se terminent très mal.
À mon âge, j'ai été
dans le temps un enthousiaste de la prise de pouvoir dans ma jeunesse par Castro contre le dictateur Batista à Cuba, et vous voyez ce que cette révolution a donné par la suite.
Ouais, c'est un peu vieilli, cette révolution à Cuba, effectivement.
Et ailleurs, les révolutions ont mal tourné. Et donc, nous regardons avec beaucoup d'attention. Israël est un pôle quand même de démocratie et de stabilité, mais...
Ça peut faire peur de ne plus être la seule démocratie, entre guillemets, dans la région, parce que c'est aussi un avantage d'être le seul, non?
Non, écoutez, en ce qui me concerne, je souhaite à tous ces peuples arabes d'accéder à la démocratie. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade-là, et que ce soit dans les deux pays où ça s'est pour l'instant produit, la Tunisie et l'Égypte, ce n'est pas encore le régime démocratique dont nous rêvons. D'une façon générale.
Ilan Grelzamer, je vous le disais tout à l'heure en ouverture de cet entretien, la Palestine, c'est une nouvelle qui vient de tomber, qui a surpris pas mal de monde d'ailleurs. Les dépêches commencent à crépiter en ce moment. Accord entre le Hamas et le Fatah, les deux parties. On sait que la Palestine est divisée aujourd'hui entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. On sait qu'il y a aussi le vœu de créer, de se faire reconnaître un État palestinien bientôt. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle d'un point de vue, disons, purement un peu cynique pour Israël d'un point de vue géostratégique?
Non, d'abord, je vous ferai remarquer que des accords comme cela entre l'autorité palestinienne et le Hamas ont déjà eu lieu et n'ont pas tenu beaucoup plus que le temps de la signature de ces accords sur le papier. La première question, c'est de savoir si dans les jours prochains, les délégations des deux côtés vont se rejoindre et si vraiment un gouvernement d'union nationale sera constitué. Vous me permettrez d'être sceptique parce que ces deux forces que sont le Fatah et le Hamas représentent dans le monde arabe d'aujourd'hui deux courants quand même très différents. Un courant moderniste, nationaliste, comme ce qui se fait à Ramallah actuellement, avec beaucoup d'ouverture sur l'Occident et la modernisation, et l'islamisme sous les formes du Hamas, du Hezbollah, du FIS et d'autres mouvements dans le monde arabe. Est-ce qu'il peut y avoir coexistence? Encore une fois, je suis sceptique parce que j'ai vu de mes yeux vus comment le Hamas a écrasé extrêmement brutalement et avec énormément de cruauté les partisans du Fatah à Gaza. Est-ce qu'ils peuvent tomber dans les bras l'un de l'autre et coopérer? Nous allons voir. Encore une fois, je suis un peu sceptique.
Effectivement, c'est les jours suivants qui vont nous le montrer. En tout cas, l'annonce a été faite d'un accord. On verra ce qu'il en est exactement. Je vous remercie beaucoup, Ilan Graalzeimer, d'être venu quelques instants avec nous. Et puis, saluez votre fils du côté de Genève à l'orchestre également.
Absolument.
Excellente soirée.
Absolument. Au revoir.
Les partis traditionnels du centre droit et le PS sont les grands perdants du baromètre électoral 2011 réalisé par l'Institut GFS Berne pour la SSR. Si les élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, elles seraient remportées par les Verts, le Parti bourgeois démocratique et les Verts libéraux. Avec près de 30% des suffrages, l'UDC reste nettement le premier parti du pays. Christian Favre, c'est un sondage qui démontre que la politique suisse est aujourd'hui clairement influencée par le drame de Fukushima.
Mais vous le dites bien, aujourd'hui, toute la question est de savoir combien de temps ça va durer. Mais pour l'heure, en effet, l'accident nucléaire japonais joue un rôle considérable dans le positionnement des électeurs. Devant l'immigration, la santé ou les questions sociales, l'environnement et l'énergie forment la première préoccupation des Suisses. Sans surprise, ce sont les Verts qui en profitent le plus. Ils passent de 8,8% en janvier à 10,9% actuellement. Deuxième plus grosse progression, celle du PBD, le Parti bourgeois démocratique, qui passe de 2,6% à 3,5%. Les Verts libéraux, eux, se fixent à 5,7%. Petite progression depuis le dernier baromètre électoral de janvier, mais immense saut en avant pour les Verts libéraux depuis 2007, quand ils pesaient à peine 1,4% de l'électorat.
Et derrière, les partis traditionnels comme le PS, le PDC et le PLR font la grimace.
Oui, ces trois partis sont dans une dynamique négative. En passant de 12,9% à 12,7%, le PDC atteint un seuil historiquement bas. Idem du côté du PS qui perd des électeurs au profit des Verts libéraux et même du PBD. Un PS qui n'a pas du tout profité de sa très forte mobilisation antinucléaire. Il passe de 18% à 17,7% des intentions de vote. Reste que si l'aile centriste du PS s'effrite, son aile gauche, elle, se renforce avec des électeurs séduits par le nouveau profil du parti. Et puis, incontestablement, le recul le plus marqué est du côté du PLR, moins 2,5% pour atteindre 15,2% de l'électorat. Jamais le parti n'est tombé si bas. On peut dire que ce sondage vérifie la boutade qui dit que les radicaux modernes votent Verts libéraux. Un PLR marqué par les défaites à répétition dans les scrutins cantonaux, qui a perdu toute force d'attractivité auprès de sa propre base et dont les thèmes de prédilection sont absents des préoccupations actuelles des électeurs.
Et puis au-dessus de la mêlée reste l'UDC.
Clairement, gain très faible par rapport à janvier, 0,1%, mais avec 29,9% des voix, le parti reste indétrônable au sommet de la hiérarchie partisane. Notant que 29,9%, c'est davantage que PLR et PDC réunis. L'UDC y parvient malgré la progression des Verts libéraux et du PBD, et en étant resté absente du débat sur le nucléaire. C'est sans doute cela qui plaît aux électeurs, cette ligne qui ne bouge pas, hein, qui mise sur l'immigration, le deuxième thème le plus concernant pour les Suisses, pour consolider sa base électorale. Enfin, notons que si le chômage et les questions sociales sont des thématiques prioritaires en Suisse romande, elles ne mobilisent pas ou très peu au niveau national aujourd'hui. La grande question est de savoir combien de temps l'effet Fukushima va durer, quels sont les thèmes qui vont finir par peser de manière décisive d'ici octobre et venir confirmer ou pas la dynamique électorale d'aujourd'hui.
Merci Christian Favre en direct de Berne et précisons que ce baromètre électoral a été réalisé entre le 4 et le 16 avril auprès d'un panel représentatif par l'Institut GFS Berne sous mandat de la SSR. La marge d'erreur est de plus ou moins 2%.
trois invités avec nous pour réagir à ce sondage. Martine Brunschwig-Grave, vice-présidente du groupe libéral radical à Berne. Stéphane Rossini, vice-président du Parti socialiste suisse. Et Dominique de Buman, son homologue, vice-président du Parti démocrate chrétien. Madame, messieurs, bonsoir à vous.
Bonsoir. Bonsoir.
Martine Brunschwig-Grave, difficile les temps pour le Parti libéral radical ces temps-ci. Comment vous réagissez? On a l'impression qu'on cherche un peu la solution, non?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut prendre acte de ce résultat qui est une photographie en avril 2011. Les élections ont lieu en octobre 2011 et comme vous l'avez rappelé, je crois qu'on est actuellement dans une période où l'atmosphère à l'égard du nucléaire et des soucis qu'il a provoqués font qu'on va davantage vers les partis qui à court terme promettent des soi-disant solutions, je dis bien des soi-disant solutions, parce que dans la réalité, les préoccupations sont un peu différentes, puisqu'il s'agit quand même d'assurer l'approvisionnement en énergie et les éléments de protection de l'environnement qui y sont liés. Donc pour le Parti libéral radical, je dirais que ce n'est pas un bon résultat à l'heure actuelle, mais comme vous l'avez aussi rappelé, ce sera intéressant de savoir quels sont les thèmes qui, dans la durée, intéressent les électeurs. Nous nous sommes positionnés sur l'emploi, sur l'assainissement des assurances sociales, sur la lutte contre la bureaucratie. Et je crois que ça, c'est des thèmes qui vont revenir parce que c'est des thèmes durables et sur lesquels les électeurs ont besoin d'avoir des réponses.
Dominique de Buman, les PDC, c'est pas très, très folichon non plus le résultat de ce sondage. Alors certes, on est à 5 mois des élections. On a beaucoup parlé du centre-droit après les défaites dans les cantons. On a même parlé du côté PDC, hein, qu'il fallait peut-être réunir les forces. Pourquoi pas avec les libéraux radicaux? On a vu que vos présidents de parti, c'est pas vraiment la voie dans laquelle ils s'engagent. Votre stratégie à vous?
Ce qui me frappe d'abord dans les résultats que vous donnez, c'est qu'il y a un point commun entre les radicaux libéraux, les démocrates chrétiens et les socialistes. C'est une baisse, et c'est une baisse qui concerne des partis qu'on pourrait taxer de généralistes. C'est des partis qui ont toujours eu, ou qui ont voulu avoir en tout cas, des solutions pour l'ensemble des problèmes de société. Et ce qui est aujourd'hui patent dans les résultats qui sont publiés, c'est que non seulement toute l'obédience verte gagne des points parce qu'il y a un souci qui est lié à l'énergie nucléaire, et d'autre part, vous avez l'UDC qui pratiquement campe sur ses positions parce qu'elle a comme image de représenter la sécurité ou une sorte de digue contre toutes les peurs. Alors que les partis qui ont perdu sont des partis qui ont toujours offert un visage à plusieurs solutions, et ça veut dire qu'il y a un malaise dans le pays. Ce n'est pas forcément un malaise dans chacun des partis qui aujourd'hui perd des points dans ce sondage, mais c'est une réalité commune. Et puis, il y a peut-être un deuxième point que j'aimerais soulever, c'est qu'il y a encore aujourd'hui l'émergence de préoccupations qui n'étaient pas tout à fait en tête du barème des soucis. Mais il faudra voir, le moment donné, quelles sont les solutions concrètes que toutes les forces politiques approuvent. Et en matière d'énergie, ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas saisi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si oui ou non on va abandonner le nucléaire, mais c'est de savoir quel prix va coûter l'énergie. Et lorsque les gens devront mettre la main à la poche, parce que l'énergie nucléaire aujourd'hui ne coûte pas très cher, alors je suis persuadé qu'il y aura des rééquilibrages politiques parce qu'on aura de nouveau recours aux partis qui ont une sorte de culture générale.
Ah, vous y croyez encore alors?
Mais j'y crois bien sûr plus que jamais, parce que sinon un parti tel que le nôtre et tel que ceux qui sont à la table ce soir n'auraient pas fait la Suisse d'aujourd'hui.
Alors justement, il y a une troisième personne que j'aimerais entendre, c'est la table des perdants de ce sondage. Hein, rien n'est joué, reste 5 mois, la campagne, les élections c'est dans 5 mois. Stéphane Rossini, vous c'est les socialistes. Vous vous mettez dans le même paquet, entre guillemets, dont parle Dominique de Buman, les partis généralistes qui ont eu du succès mais qui n'en ont plus aujourd'hui parce que la configuration a changé?
Pas tout à fait, parce que nous avons eu aussi, avec les dernières élections dans plusieurs cantons, des sondages grandeur nature. Alors on prend acte du sondage qui est publié aujourd'hui, mais dans les sondages grandeur nature, moi j'ai l'impression que c'est les résultats des élections dans plusieurs cantons, dans un certain nombre de villes, ces derniers week-ends ont été relativement favorables au Parti socialiste. Nos résultats sont en tout cas supérieurs à ceux que montre ce sondage. Je crois que, en tout cas pour le Parti socialiste, on va garder notre ligne avec l'accent sur les préoccupations sociales, santé, économie, emploi. Le sondage le montre aussi, c'est là qu'on nous reconnaît les plus grandes compétences. Ce qui est un peu plus étonnant pour nous, c'est que voilà, toute notre activité autour des énergies renouvelables, avec une initiative populaire qui concerne les clean tech la création ici de centaines de milliers de postes de travail, d'innovation, de potentiel de sortie du nucléaire. Finalement, eh bien, cette dynamique qui est ancrée très fortement depuis de très nombreuses années au PS, eh bien, ne semble pas
ça
véritablement, je dirais, être reconnue comme un centre de compétences du PS. Et c'est un élément qui est, pour nous, un élément central de notre action, mais qui nous conforte dans notre accent qui est mis sur les assurances sociales, la santé, sur l'emploi, la solidarité.
Martine Bonchuy-Graff, est-ce qu'il faut changer la manière de faire de la politique?
Non.
On a posé la question à Fulvio Pelli, il nous dit, bah non, il faut, enfin, je veux pas imiter son accent, mais il nous dit, mais non, c'est, on peut pas tout changer en cours de route comme ça.
Vous pouvez le faire avec le vôtre, hein, d'accent,
tout
ça
à fait.
Va aussi.
Fulvio Pelli, c'était il y a quelques jours, donc ça reste prégnant. Mais vous avez l'impression aussi qu'il faut maintenir la ligne telle qu'elle est, elle est
alors,
aujourd'hui?
Alors, je vais vous dire, ça, je crois que pour moi, ça a toujours été une conviction dans la durée. Et c'est peut-être les fois où on s'égare un peu de la ligne que finalement, on déstabilise aussi nos électeurs. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça, mais on sait qu'il y a des événements qui peuvent créer une atmosphère particulière et on peut dire que ce qui s'est passé au Japon crée une atmosphère particulière, y compris en Suisse, ça a été rappelé tout à l'heure. Et ça signifie pas qu'on doit faire croire qu'on a des solutions toutes faites ou changer notre fusil d'épaule, même si on s'engage à réfléchir à toutes les possibilités en matière d'énergie. Je crois que la responsabilité d'un parti, c'est pas de plaire à ses électeurs simplement à court terme, même si ça coûte parfois, c'est essayer de proposer des solutions qui, dans la durée, sont des solutions qui soient conformes au bien-être et finalement aux responsabilités qu'on assume. Alors, comme on le voit, lorsque nous, on parle d'assurance sociale, on parle d'assainissement. Lorsqu'on parle d'emploi, c'est encourager l'emploi. Lorsqu'on parle de bureaucratie, c'est de lutter contre les problèmes administratifs que chacune et chacun rencontre.
Mais ça, c'est pas un souci, hein, pour les gens, la
non,
bureaucratie.
Non, c'est pas un souci, mais quand on leur montre de temps en temps, ou plutôt quand on parle avec les gens et qu'ils regardent au quotidien comment ça se passe, ce souci va devenir de plus en plus important à mesure que les événements du Japon vont s'éloigner un peu. Vous savez, je crois qu'il faut bien voir qu'on vit une période qui est une période d'événements lourds par rapport à la politique et c'est vrai que ce qui s'est passé laisse des traces dans les esprits. Ce qu'il en restera au moment des élections, bien ça je peux le dire aujourd'hui et je crois que ce qui est très important pour un parti comme le nôtre, c'est de tenir les engagements qu'il a annoncés.
Et puis, à vos côtés, Dominique de Buman, l'allié, entre guillemets, du centre-droit, Dominique de Buman, votre thème, la famille, un thème historique pour le PDC, il est en queue de classement des problèmes considérés comme le plus urgent aujourd'hui par les Suisses. Ça vous pose un gros problème, non?
Non, je crois pas, parce que c'est quand même un des soucis qui doit être géré. On ne peut pas tous s'occuper que du thème qui serait en tête du baromètre, parce qu'il n'y aurait plus alors de gestion de l'ensemble de l'État. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans ces sondages, il y a toujours l'aspect émotif. C'est une sorte de micro-trottoir. Vous dites aux gens qu'est-ce qui vous frappe le plus, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus. Mais lorsque les gens se retrouvent par rapport à leur bulletin de vote, lorsqu'ils se retrouvent par rapport à leur feuille d'impôt, lorsqu'ils se retrouvent dans le quotidien par rapport aux problèmes urbains qu'il faut résoudre, ils ont souvent des comportements qui sont différents. Et ce qui me frappait dans ce que disait tout à l'heure Stéphane Rossini par rapport au résultat du PS, moi je pense que le PS qui fait un résultat nettement moins bon sur le plan national dans ce sondage que dans certaines élections locales ou partielles auxquelles il a fait allusion, c'est qu'évidemment, sur le plan du terrain local, on ne parle pas de l'abolition de l'armée et d'abandonner toute notion de sécurité, ce qu'il n'a pas dit tout à l'heure. Et dans un sondage tel qu'on en parle ce soir, on parle peut-être plutôt de la vision de société, de questions générales, de questions qu'on traite dans les médias, mais pas forcément du quotidien. Or, les partis que nous représentons sont très fortement représentés aux échelons communal et cantonal, et je crois quand même qu'on peut dire qu'il y a là des personnalités compétentes qui sont connues comme étant fiables et comme étant souvent très très honnêtes. Et aujourd'hui, de vouloir faire croire qu'avec un baromètre électoral, avec un baromètre des préoccupations telles que le Crédit Suisse le publie aussi régulièrement, il y aurait une modification de l'être humain par rapport à ces problèmes de fond, je crois qu'il y a un pas qu'il ne faut franchement pas franchir.
Stéphane Rossini, les préoccupations des Suisses en tête énergie, environnement, et puis bon, Suisse romande plutôt chômage, assurance sociale, etc. Là, vous avez l'impression de votre connaissance de la population que c'est vraiment ça qui intéresse les Suisses, c'est là-dessus qu'il faut miser.
Il y a deux niveaux. Il y a bien évidemment l'impact direct de l'actualité. Et là, je pense que la dimension monothématique ou conjoncturelle de certains partis, eh bien, elle leur est peut-être profitable aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi les vraies questions. C'est quels partis, quels élus apportent quoi à la population? Quels partis, quels élus répondent aux soucis quotidiens des gens? Et là, bah, c'est très clairement pas l'UDC, je veux dire. C'est très clairement notamment les questions de revenus, les questions de niveau de salaire, de protection du travail, de formation, de services publics. Je crois qu'à partir du moment où la personne sort de la conjoncture pour voir dans son quotidien quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins, eh bien, elle va se repositionner. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'au Parti Socialiste, on va garder notre axe vraiment très fort sur les aspects sociaux, économiques, emploi, services publics, solidarité, tout simplement parce que c'est ça qui fait le quotidien des gens. C'est de ces éléments-là que vit la population, tout simplement. On ne vit pas avec des grandes peurs généralisées qui sont négatives et pour lesquelles les partis qui sont censés être compétents dans ce domaine, ou en tout cas des partis de référence, n'apportent aucune solution crédible.
Martine Braunschweig-Graf, à vous deux, PDC, Parti Libéral Radical, vous n'arrivez pas au niveau de l'UDC. On a beaucoup parlé de rapprochement, holding, appelons-le comme on veut. Vous avez quelle position par rapport à cela? Renforcer le centre en se réunissant un peu tous dans une structure pour être plus fort?
Non, mais je ne crois pas que les structures holding n'ont jamais résolu quoi que ce soit à partir du moment où elles sont faites uniquement parce qu'on a tout à coup un adversaire ou qu'on estime être un adversaire potentiel. J'entends, on a chacun nos principes, notre électorat. Au niveau suisse, c'est parfaitement clair qu'il y a des sujets sur lesquels nous nous entendons et sur lesquels nous nous battons ensemble. Et je crois que ça doit demeurer et ça doit se renouveler à chaque occasion lorsqu'on les partage. Mais au-delà de cela, fabriquer des holdings politiques, c'est prendre aussi les citoyens pour des imbéciles.
Dominique de Buman, vous trouvez aussi ?
Je suis persuadé que chaque parti doit d'abord se battre pour défendre la population, pour être visible, pour être reconnaissable, pour gagner la confiance et pour l'emporter. Mais ce qui frappe souvent dans les débats politiques qui ont lieu à Berne, ou qu'en tout cas qui sont relatés par la presse, c'est des calculs arithmétiques, c'est des jeux de pouvoir, c'est des alliances, et je crois que ça n'intéresse franchement pas la population. La population veut savoir si oui ou non les personnes à qui elle a donné sa confiance est à même d'apporter des solutions. Et là, on doit aussi, nous tous politiques, faire un aveu, non pas un aveu n'avoir pas fait notre travail, mais que parfois les défis nous dépassent. On a vu ce qui s'est passé avec le secret bancaire qu'on n'a pas évoqué ce soir. Tout le monde plus ou moins disait que c'était une force de la Suisse et subitement nous avons été attaqués par l'étranger, nous avons été attaqués et lâchés par l'OCDE. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ensemble des forces politiques a plus ou moins changé de fusil d'épaule, a dû s'adapter parce que sinon la Suisse se trouvait complètement seule. Et ça, ce genre de changement, l'électeur qui n'est peut-être pas toujours confronté aux nécessités de trouver des solutions, de trouver des majorités à Berne, l'électeur, en perd son latin, ne comprend pas ce qui se passe et a l'impression que peut-être nous sommes des girouettes ou que nous ne sommes pas fiables. Et ce hiatus, ce fossé entre les élus politiques et la population est réel, on ne doit pas le nier, et je pense que ça implique de nous, les politiques, d'être encore meilleurs dans la communication, d'avoir la confiance pour leur faire expliquer que les problèmes sont difficiles. Et c'est une des nombreuses difficultés qui explique aussi cet émiettement des forces politiques, parce qu'on pourrait arriver un jour à avoir un gouvernement suisse qui serait composé peut-être de deux ou trois représentants d'un même parti, mais sinon de n'avoir que des représentants individuels, et à ce moment-là, la Suisse sera difficile à gouverner, il faut quand même s'en rendre compte.
Pour conclure, Stéphane Rossini, on a l'impression parfois, en entendant les réactions à ce genre de sondage ou à de vraies élections certains week-ends, que les politiques parlent au cerveau rationnel. Hein, on essaye d'expliquer, on dit on a les bonnes solutions, on a des solutions générales depuis très longtemps, il faut faire comprendre ça aux gens. Puis en même temps, les gens n'entendent pas ce discours. C'est comme c'est le cerveau reptilien contre le cerveau rationnel. Il y a quelque chose de ce genre-là. Vous n'avez pas cette impression-là, des fois?
Moi, je crois que les gens entendent. Il y a des pourcentages que si on additionne, on fait le 100% des électeurs. Par conséquent, les gens ont une rationalité, les gens ont une représentation du débat politique, une représentation des problèmes, et puis ils votent en conséquence. Nous, comme parti politique, eh bien, on essaye de montrer quelle société on veut construire dans l'intérêt de la population. Et puis ensuite, eh bien, à nous de pouvoir diffuser nos messages et d'être reconnus comme tels dans notre capacité à construire cette société. Ça, c'est le rôle des partis partis politiques. Et on voit que ce soir, bien, tout le monde reste très mobilisé et, je dirais, très clairement déterminé pour affronter les élections fédérales. Donc, on va continuer à défendre notre message. Moi, j'ai pas l'impression d'être confronté à un fossé avec la population, parce que mon parti, en tout cas, je ressens que tous les problèmes que la population évoque, eh bien, c'est des problèmes pour lesquels on a des solutions et des propositions.
Eh bien, on se réjouit de les entendre dans cette année électorale. 5 mois, hein, qui s'annonce passionnante. Il y aura beaucoup à débattre encore, sur le fond d'ailleurs. Stéphane Rossini, Martine Brunschwigraff, Dominique Debumont, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Merci. Bonne soirée.
Infotrafic RSR.
Le trafic s'est normalisé sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud entre Lausanne Maladière et Écublanc, ainsi que sur l'axe Genève-Yverdon entre les jonctions de Morges-Ouest et de Cossonay en direction d'Yverdon.
Les écoles polytechniques fédérales ont présenté ce matin un panorama de leurs recherches en matière de production d'énergie et d'efficience énergétique, du photovoltaïque au crépi super isolant, en passant par l'enfouissement du CO2 des centrales à gaz. Les chercheurs ont présenté une large palette de champs de recherche, mais pas question de se positionner sur le nucléaire pour le président du conseil des EPF, Fritz Schisser, ce matin. Il nous a quand même donné son sentiment personnel sur la technologie, selon lui, la plus prometteuse à court terme. Il répond, écoutez-le, soleil, pompage, turbinage dans les Alpes et stockage décentralisé. Fritz Schisser.
Pour moi, je pense que le potentiel de l'énergie solaire, c'est toujours une énergie dont nous disposons, peut-être pas au bon moment, en décembre, en janvier, en février. Donc, je préférerais d'aller dans cette direction, trouver des solutions de stockage de l'électricité qui pourraient nous aider à produire de l'électricité solaire et développer la recherche dans cette direction.
Solaire et puis pompage, turbinage dans les Alpes pour réguler ?
Oui, c'est une solution, mais je suis d'avis que la recherche sur le stockage de l'électricité, même en petite quantité, décentralisée, va faire des progrès énormes dans les 10-15 années qui viennent.
Les petits réservoirs d'hydrogène ou de gaz méthane un peu partout ?
Peut-être de manière chimique ou d'autre, que sais-je. Moi, je ne suis pas chercheur, donc je ne suis pas expert. Mais là, je suis très confiant qu'on fait des progrès énormes.
Fritz Schisser, le président du conseil des EPF, interrogé par Pascal Jeannerat. Avec nous, Jacques Nérinck, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur, ancien professeur à l'EPFL, vous êtes également conseiller national PDC Vaudois. Merci de nous rejoindre. Alors, les EPF fourmis d'idées, elles ont bien travaillé. Tout est prêt. Maintenant, il suffit de choisir pour le politique.
Il suffit de choisir et on aurait pu choisir beaucoup plus tôt. Hein. Je rappelle que voici 10 ans, en 2001, l'Académie suisse des sciences techniques a sorti un gros rapport en montrant qu'avec les techniques connues, maîtrisées à l'époque, on pouvait couper notre consommation de moitié.
Mais souvent les politiques nous disent alors il faut attendre encore le progrès technique, il faut patienter encore un peu jusqu'à ce que ce soit tout à fait réalisable. Les EPF, c'est quand même un peu le salon des inventions, de belles idées mais pas très réalistes.
Je crois qu'elles sont réalistes et qu'elles se réaliseront de plus en plus. Moi, ce qui me frappe, ce n'est pas la nécessité d'une recherche pour trouver des techniques neuves, mais la volonté politique d'utiliser les techniques qui existent déjà maintenant. Je rappellerai un seul détail. J'ai proposé il y a 2 ans que l'on cesse de vendre des ampoules à incandescence, dont le rendement est le quart de celui des ampoules de fluo compactes. Ça a été refusé par la droite, le Parti radical et l'UDC.
Précisément, c'est le problème, c'est quelle technique choisir pour le politique. Chacun a sa petite idée, chacun a sa préférence. Ça va être très très difficile de se mettre d'accord au niveau politique,
non,
justement.
Non, je crois que le premier gisement, ce sont les économies. Le problème n'est pas tellement de récupérer de l'énergie, c'est d'abord de cesser d'en gaspiller. Nous avons entre 100 000 et 200 000 chauffages électriques. Si on les remplace par des pompes à chaleur, une fois de plus, on divise la consommation d'électricité par 4. Et donc, il y a une volonté, il y a un lobby au Parlement pour vendre de l'électricité, c'est-à-dire pour continuer à en gaspiller et pour cesser pour éviter surtout d'en économiser. Donc le problème n'est pas dans la recherche, le problème est dans la volonté politique.
Et pour ce qui est de la recherche, est-ce qu'on peut partir du principe qu'aujourd'hui on peut stopper la recherche sur le nucléaire ? Est-ce que là on peut faire des économies ou les mettre ailleurs, mettre l'argent pour la recherche nucléaire aujourd'hui dans les réalisations pratiques dont on aura besoin demain ?
Tout à fait. Supposons simplement une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est 10 milliards qui peut dépenser avec un délai d'environ 10 ans avant qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 milliards? Combien de cellules photovoltaïques? Combien d'éoliennes? Et surtout, combien d'isolation de maisons on peut réaliser avec, le même argent? Je rappelle qu'avec le centime climatique, on a une certaine somme, je ne sais pas, 200 ou 300 millions, mais qu'on a réussi à couvrir avec ça le tiers des projets qui ont été proposés. Donc les projets sont là, nous avons certainement de l'argent également, mais il y a aussi une volonté en sens opposé du lobby électrique et en passant par le lobby nucléaire, de ne pas faire des économies.
Merci beaucoup Jacques Nérinck d'être venu un instant dans Forum ce soir. Ingénieur, ancien professeur à l'EPFL, conseiller national démocrate chrétien, je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir.
Et avec nous Riyad Sidaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue genevois d'origine tunisienne, chercheur associé au CERMAM, le centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen. Alors on vous a invité parce qu'en Libye, 61 chefs de tribu ont fait un serment, celui de s'unir contre Muammar Kadhafi, dans un manifeste diffusé aujourd'hui par le site internet de Bernard-Henri Lévy, le philosophe français bien connu. Ils disent réagir aux menaces pesant sur l'unité de leur pays, aux manœuvres et à la propagande du dirigeant libyen. À votre avis, cette unité proclamée dans cet appel, est-ce qu'elle correspond vraiment à la réalité du terrain ?
Oui, absolument. La carte de Gaddafi est perdante. Gaddafi a toujours régné en utilisant le jeu divisé afin de régner vis-à-vis des tribus. Il a acheté des tribus contre des autres. Il a joué la concurrence et les conflits entre les tribus. Les chefs de tribus sont aussi des calculateurs rationnels. Ils cherchent leurs intérêts et les intérêts de leurs tribus. Ils ont bien compris que Gaddafi est fini au plan international, diplomatique. Gaddafi est fini au plan économique. Gaddafi, aujourd'hui, n'est qu'une série de bandes qui peuvent régner sur quelques villes ou quelques quartiers. Même l'Ouest libyen s'est révolté contre lui. Donc, ce sont des calculateurs rationnels.
Des calculateurs, des opportunistes, au fond. Hein. Ils changent, ouais. ils ont changé de position directement, voyant que Gaddafi n'avait plus de chance de résister.
Il faut le dire, hein, anthropologiquement parlant, les tribus sont achetables. Les chefs des tribus sont achetables. On a eu ça en Afghanistan, en Irak, partout. On peut acheter des chefs de tribu parce qu'ils défendent leur petite communauté qui est la tribu au plan économique, au plan politique, etc. Quand Gaddafi était fort, ils étaient obligés de le suivre pour des intérêts aussi, parce que Gaddafi a joué la carte tribale, c'est une société tribale. Même l'armée libyenne qui a résisté contre la révolution à cause de cette composition tribale, le noyau dur de cette composition tribale pour Gaddafi, c'est évidemment sa propre tribu Gdadfa, puis Mgaha, puis Ouled Slimane. Ce sont trois tribus qui forment cette coalition, ce noyau dur de pouvoir. Mais là aussi, on commence à voir des défections, parce que quand on voit que Gaddafi finit totalement, il n'y a aucun espoir pour lui, donc on commence à analyser et choisir nos camps rationnellement. C'est un phénomène en sciences politiques, en sociologie de la révolution, connu dans toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde entier, à travers l'histoire. C'est toujours, il y a deux noyaux durs qui se disputent le pouvoir, et au milieu, il y a les grands calculateurs, cette majorité qui calcule où est son intérêt. Les tribus libyennes ont compris que Gaddafi est fini, et évidemment, ils ont compris qu'ils n'ont aucune perspective avec lui, et en plus, ici, il y a le côté éthique, il faut parler que du côté éthique. Gaddafi a choisi la stratégie de tuer, il téléphone à ses adjoints, son ministre des Affaires étrangères l'a quitté, a fui vers Londres, il a dit, dès que je décroche le téléphone, Gaddafi crie « tuer, je veux des morts ».
Alors ça, ce message n'y passe plus, les tribus ont compris, dites-vous, elles se retournent contre Kadhafi. Qu'est-ce que ça dit sur l'après-Kadhafi éventuellement? Est-ce que c'est rassurant, ces tribus alliées? C'est déjà un début de renouveau pour la Libye, un début d'organisation là autour?
Espérons-le. Personnellement, je pense que la Libye n'est pas la Tunisie ou l'Égypte. Il n'y a aucune tradition électorale. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parlement. Gaddafi a créé un grand vide constitutionnel et vide politique. Il y a beaucoup d'islamistes djihadistes au plan sociologique, il y a les partisans de Gaddafi de côté, les islamistes de l'autre. Entre deux, il y a ces tribus qui représentent en fait un pouvoir traditionnel, qui n'est pas un pouvoir moderne. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est armé, les tribus sont armées, les milices de Gaddafi, les pro, les anti, les révolutionnaires, l'armée est divisée, évidemment. Je pense que la Libye va avoir un peu du temps avant de se stabiliser. Peut-être, si ça grave, on demande une intervention internationale terrestre à travers l'ONU.
Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, politologue genevois, associé au CERMAM, également directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
19 milliards de francs, l'américain Johnson & Johnson a mis beaucoup d'argent pour acheter l'entreprise soleroise Synthès. Et le rachat a été annoncé aujourd'hui. Le producteur d'implants orthopédiques est considéré comme l'un des fleurons de l'industrie suisse, Synthès. Depuis une trentaine d'années, il vit une success story. 3 milliards de francs de chiffre d'affaires l'an dernier. Avec nous, Olivier Crevoisier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie territoriale à l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel. C'est un fleuron de l'industrie suisse, je le disais, Synthès, ça passe en main américaine. Est-ce qu'on peut spontanément comme ça se dire, c'est quand même une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de nouvelles d'abord?
Alors, bon, il est clair que ce genre d'opération a pour but premier, si vous voulez, de réaliser une bonne affaire pour les actionnaires de l'entreprise. Hein. Tant de l'entreprise qui est rachetée que de l'entreprise qui rachète, grâce évidemment à une augmentation des cours en bourse. Dans un deuxième temps, il est bien clair qu'il peut y avoir des conséquences sur le plan industriel à l'échelle d'un site ou d'une région.
Alors juste, je vous laisse continuer.
Alors après, les conséquences, évidemment, elles peuvent être diverses. Hein. On peut dire qu'il n'y a pas de règle générale, si vous voulez. On a tous en tête des cas d'entreprises qui ont été rachetées et qui ont été, je dirais, purement et simplement fermées, hein, les activités étant délocalisées. Par exemple, l'année dernière, ça a été le cas de Woomaran Machine à Neuchâtel. Mmh. On a connu également Cardinal, même si ça a pris un petit peu plus de temps. Il y a aussi bien sûr des cas qui sont moins dramatiques, hein, et quelquefois même positifs. Ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, il y a une restructuration, une réorganisation, avec très souvent certains emplois qui vont être rapatriés vers le siège de ces grandes entreprises. Ça peut être le cas, je ne sais pas moi, d'un service financier ou d'un service juridique. On va les ramener vers le centre et il y aura bien sûr une réorganisation. Hein.
Justement, au niveau par exemple, prenons le cas d'une grande entreprise comme Synthès. Bon, j'imagine le siège mondial, ce sera plus en Suisse. Est-ce qu'on y perd par exemple des impôts? Est-ce qu'on y perd une manière de pouvoir contrôler quand même, d'être plus proche du centre de décision? Du coup, les emplois sont plus sûrs?
Alors, il est clair que la conséquence de tel rachat, c'est un éloignement des directions. Hein. C'est-à-dire qu'on a des directions qui sont dans un autre pays, voire sur un autre continent, hein, en l'occurrence. Il est bien clair que quand on a un éloignement comme celui-là, cette distance, elle facilite bien sûr des restructurations, par exemple. Hein. Les directions échappent dans une large mesure aux pressions politiques, au contexte social, et peuvent réaliser plus facilement ces réorganisations. Mais ça, c'est valable pour un grand nombre de domaines. Ça peut être le domaine de l'emploi, ça peut être le domaine que vous avez évoqué de la fiscalité, ça peut être également la manière dont l'entreprise va s'insérer dans les systèmes de formation dans une région ou pour certaines questions environnementales. Hein. Donc c'est une question assez générale. Dans quelques cas, ça se passe très bien. Hein. Ces entreprises vont au contraire s'impliquer de manière tout à fait positive dans les régions dans lesquelles elles s'implantent. Dans d'autres cas, ça se passe beaucoup moins bien.
Olivier Crevoisier, en France, pour prendre un exemple proche de nous, il y a une sorte de nationalisme économique. Hein. On peut appeler ça les bijoux de famille. Quelques grandes entreprises qu'on laissera jamais se faire racheter à l'étranger. On avait vu Danone à l'époque lorsque Pepsi voulait racheter, peut-être L'Oréal bientôt. En Suisse, on n'a pas du tout cette philosophie-là. Est-ce que c'est pas jouer un petit peu naïf peut-être?
Alors, je crois qu'il faut distinguer la France et les États-Unis d'un côté, qui sont des pays qui ont un pouvoir politique relativement fort, hein, et qui vont bien sûr avoir souvent des actions, alors effectives ou de simples effets déclamatoires, hein, mais qui vont avoir un certain nombre d'actions pour, je dirais, contrôler, garder le contrôle sur un certain nombre d'activités qui vont juger être importantes. Alors, il est clair qu'en Suisse, la Suisse, c'est un petit pays qui a de très grandes entreprises, hein, donc on a une asymétrie, si on veut, qui est marqué, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que jusqu'à présent, ça marche plutôt bien, dans le sens où ces très grandes entreprises
c'est plutôt nous qui
ont
joué,
voilà, ont plutôt pu racheter des entreprises à l'étranger plutôt que le contraire.
Oui, mais forcément, il y en a de moins en moins de ces toutes grandes entreprises en Suisse. Leur nombre ne se multiplie pas. Chaque fois que, quand on perd, par exemple, je dis on, hein, quand la Suisse perd la direction ou le centre mondial pour une entreprise comme Winterthur, les assurances, c'est AXA qui rachète. Ça fait une moins, il n'y en a pas une autre pour la remplacer. On va peu à peu vers un appauvrissement ou pas?
Alors, je dirais que c'est un petit peu le trend, si vous voulez, la tendance qu'on a vue depuis 25 ans. C'est-à-dire que ce régime, si vous financiarisez, comme on l'appelle, hein, qui a donné lieu à ces vagues de fusion et d'acquisition qu'on connaît, qu'on a connues dès les années 80, mais surtout dans les années 90, eh bien, il est clair que ces fusions et acquisitions, elles ont conduit à une diminution très claire du nombre d'entreprises, enfin du nombre de groupes, si vous voulez. Si on regarde maintenant les principales entreprises cotées sur toutes les bourses, eh bien, on s'aperçoit que pratiquement toujours, ce sont des numéros 1 ou des numéros 2 mondiaux. Donc on a vraiment, à l'échelle de la planète, je dirais, une concentration très forte du pouvoir économique.
On peut dire que la Suisse joue avec pas mal de succès jusqu'ici, d'une sorte d'être bon élève, hein, au fond, dans ce genre d'échange économique, de libre-échange.
Alors, je dirais que la Suisse a su très bien articuler, d'un côté, son rôle traditionnel de place industrielle et de l'autre, son rôle de place financière. C'est-à-dire que ce sont souvent des grands groupes industriels qui ont su utiliser les ressources du système financier pour s'internationaliser. Alors ça, c'est un peu une caractéristique de la Suisse. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, certainement à l'échelle du pays que ça a été une bonne chose. Après, bien sûr, si on va voir dans la vie concrète des citoyens, des travailleurs ou des cantons, par exemple, eh bien, on ne voit pas forcément ces effets positifs. Si un très grand groupe, par exemple, rachète une entreprise aux États-Unis, cette entreprise fait des bénéfices, ces bénéfices sont réinvestis aux États-Unis. Finalement, on ne voit pas vraiment, si vous voulez, ce que ça change pour le quotidien des citoyens. Mais il est bien clair que, du point de vue des entreprises, c'est quelque chose de très positif.
Je vous remercie beaucoup, Olivier Crevoisier. Vous êtes professeur à l'Université de Neuchâtel, économie territoriale à l'Institut de sociologie de l'Université. On parle avec vous de ce rachat 19 milliards de francs Synthès racheté par l'Américain Johnson & Johnson. Une bonne soirée, Olivier Crevoisier.
Merci, au revoir.
Infotrafic RSR.
Attention, on nous signale qu'un poids lourd a perdu un enjoliveur sur les voies de circulation sur l'autoroute Genève-Lausanne, entre Rolles et l'aire de repos de Saint-Pré, en direction de Lausanne. Faites preuve de prudence sur ce tronçon.
Et le 15 mai prochain, les Genevois voteront sur la mobilité douce. L'initiative dite des villes prévoit un plan directeur cantonal pour la mobilité douce, un terme qui englobe le vélo et la marche à pied. Mais la dite initiative 144 divise à nouveau le centre droit, qui n'a pas encore pansé ses blessures de la campagne électorale des municipales, Pierre-Antoine Préty.
Oui, il ne manquait plus que ça, une votation sur la mobilité douce pour ajouter au désarroi du centre droit genevois. La votation du 15 mai sur l'initiative dite pour une mobilité douce est un autre sujet de querelle après celui du rapprochement avec l'UDC. Le plan directeur cantonal prévoit l'adjonction de pistes cyclables en sites propres sur toutes les routes primaires et secondaires. Un projet qui devrait se réaliser dans les 8 prochaines années. C'est donc, vous l'aurez compris, un texte très contraignant pour le Conseil d'État et les communes. L'initiative 144 fait partie des sujets qui fâchent à droite. Les 15 000 signatures ont été récoltées par des associations de cyclistes, la gauche, les Verts et puis le PDC. À cette mésentente bourgeoise s'ajoute un morcellement. Les Verts libéraux ont naturellement rejoint le camp des cyclistes et des piétons. Une émancipation logique, mais une émancipation tout de même pour ce jeune parti qui prend le risque d'irriter le cousin PLR. Il faut dire que dans le Goulet genevois, le débat sur la mobilité est exacerbé depuis une trentaine d'années. Des dissensions d'autant plus douloureuses aujourd'hui que les chantiers urbains minent le centre-ville. Autant dire que l'unité, la grande droite chère aux libéraux, est une fois de plus écornée. C'est le moins que l'on puisse dire.
Merci Pierre-Antoine Préty. Deux invités avec nous en direct de notre studio de Genève. Laurent Sédoux, président des Verts libéraux genevois, et Alain Mélan, député libéral au Grand Conseil. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Laurent Sédoux, tout d'abord, les Verts libéraux genevois, cette fois-ci sur la mobilité. Vous avez clairement choisi votre camp. Vous êtes avec la gauche et le PDC. Le vélo, la marche à pied, c'est l'avenir pour la ville de Genève.
Ah, mais c'est une thématique qui nous est chère, la mobilité douce, et d'autant plus que Genève est un petit village. Et c'est ce grand avantage de ce canton, avec ses distances réduites, et où la question de la mobilité douce à pied et en vélo permet de couvrir une bonne partie de nos territoires.
Un petit raillé quand même chez les Verts libéraux. Le côté libéral, c'est un peu la protection des petits commerçants qui sont au centre et qui n'ont pas envie de voir la circulation disparaître complètement.
Oui, mais il ne s'agit pas d'opposer l'un avec l'autre. Il s'agit de permettre à chacun d'utiliser le moyen de transport qui lui convient le mieux à une période de la journée ou de l'année qui lui est le plus favorable. Donc je crois que les choses doivent être complémentaires, elles ne s'opposent pas.
Alain Mélan, les libéraux, parfois cette image un peu pro 4x4, la voiture en ville doit subsister. Est-ce que la modernité aujourd'hui, ce n'est pas une mobilité douce en ville de Genève? Est-ce que les gens ne réclament pas ce type de ville aujourd'hui?
Alors, je peux tout à fait vous le confirmer, puisque le groupe PLR au Grand Conseil à Genève, dans la foulée de la déception de ce vote sur l'initiative 144, non pas sur le refus de l'initiative en tant que telle, mais le refus de proposer un contre-projet, on a déposé un au Grand Conseil, indirect, mais a déposé un projet de loi visant justement à mettre des objectifs à la mobilité douce. Donc on n'est pas du tout en opposition avec cet objectif de la mobilité douce. Bien au contraire, c'est bien sur le fond de cette initiative, dont on pourrait peut-être parler plus en avant après, où là on n'est pas d'accord, parce que contrairement à ce que vient de dire M. Sédou, on n'aura pas le choix.
Alors précisément, on vous écoute sur le fond, pourquoi vous combattez cette initiative qui aurait le mérite de lancer le débat? Tout le monde est presque d'accord pour dire qu'aujourd'hui la situation n'est pas satisfaisante. Ça ne permettrait pas d'ouvrir le débat?
Entièrement d'accord avec vous. Encore une fois, on a déposé un projet de loi, on était pour un contre-projet. Pourquoi on était pour un contre-projet contre l'initiative? C'est que cette initiative dit purement et simplement qu'on donne la priorité au vélo et aux piétons à tous les carrefours. Ce qui dit priorité dit on ne passe plus en transport public, on ne passe plus en véhicule professionnel. Les véhicules privés, on peut peut-être avoir une discussion sur la circulation ou le déplacement privé dans un centre urbain, mais ce qui est professionnel, ce qui est la mobilité collective, ce qui représente, ces deux modes de transport représentant quand même le 70% des déplacements urbains, alors que le vélo représente 5%, 6% des déplacements.
Laurent,
donc qu'on les favorise, qu'on les accompagne, qu'on leur donne un objectif avec une loi, avec un cadre, comme on donne un cadre à la circulation routière, comme on donne un cadre avec les transports publics, comme on donne un cadre avec ce qu'on appelle chez nous la hiérarchisation du réseau routier, puisqu'on a hiérarchisé le réseau routier en disant là on peut faire passer du transport public, là on fait passer des flux de circulation plus importants. Tout ça doit s'inscrire dans une vue globale et donner la priorité à un mode de transport, si doux soit-il. Dans ce cadre-là, cette initiative va trop loin.
Laurent, c'est doux, elle est trop extrême, on donne la priorité, du coup on fausse le débat et on relance le vieux débat pro et anti-voiture.
Il faut lire le texte d'initiative. Au moment où cette initiative donne une priorité pour un mode de transport plutôt qu'un autre. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est le plan directeur piéton, et c'est de travailler sur un plan directeur. Et là, il y a avoir une réflexion qui est globale, et ça c'est important. Je tiens aussi à corriger, il ne s'agit pas dans les 8 ans de mettre ça en œuvre, il s'agit de le faire 8 ans après que le plan directeur ait été accepté. Donc ça change aussi la donne, ce qui permet à la fois aux autorités communales et cantonales de réfléchir ensemble sur les meilleures façons de faire passer ces lignes qui permettent aux piétons et aux vélos de se déplacer. Je crois qu'il ne faut pas dire que c'est la priorité de l'un avec l'autre. Il y a des secteurs qui permettent d'amener des personnes à pied, en vélo, dans les secteurs, notamment pour du travail, mais aussi pour des loisirs, qui peuvent être équipés en conséquence, sans que ça pose aucun problème, ni que ça mette en difficulté le transport individuel routier. Et ce qui m'étonne de la part des libéraux, c'est que là, on parle, et c'est peut-être la façon la plus individuelle de se déplacer, à pied et en vélo, on est vraiment dans un déplacement individuel. Et ça, c'est vrai que de mettre ça en avant, moi, m'étonne que les libéraux ne l'utilisent pas.
Alain Mélan, cette priorité mise sur le vélo, c'est un peu c'est votre lecture, c'est les libéraux qui font cette lecture-là de l'initiative. Vous êtes pour le statu quo aujourd'hui ville de Genève?
Non, pas du tout. Je crois que tout d'abord, ce qu'il faut savoir, que cette initiative, il y a trois plans. Il y a le plan, on parle de la mobilité, d'un plan directeur de la mobilité douce. C'est un des objectifs de cette initiative. Cet objectif est rempli puisque Mme Künzler vient de le déposer au Grand Conseil à Genève. Donc ce plan de la mobilité douce, il nous a été soumis. On va l'étudier en commission. Et notamment, ce plan dit qu'il y a certains objectifs qui sont donnés, notamment en termes de création de pistes cyclables, que ce soit sur le plan urbain au centre-ville, que plus à l'extérieur du canton, sur les zones rurales. Donc ce plan-là, ou ce pan-là de l'initiative, on peut dire qu'il y a été répondu. Le deuxième pan de cette initiative, c'est d'avoir une carte ou d'avoir un réseau de chemins piétonniers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Genève, on a depuis une vingtaine d'années, une loi sur les chemins piétonniers, les chemins ruraux. Donc on a déjà quelque chose qu'il suffirait peut-être d'améliorer, certes, mais on a déjà quelque chose dans notre législation. Et troisième pan, alors quand c'est pas une vue de l'esprit des libéraux ou du PLR de dire que ça va être une priorité, c'est ce que dit l'initiative. Alors il faut arrêter l'angélisme, mais l'initiative dit priorité de la mobilité douce au carrefour. Ça veut dire que le piéton ou le vélo qui appuie sur un bouton au carrefour, les transports publics s'arrêtent et tout le trafic privé professionnel s'arrête. C'est ce que dit l'initiative.
Alors on ne mettra pas d'accord ce soir sur cette question-là.
On peut dire les mots qu'on veut, mais c'est ce que dit l'initiative.
Laurent Seydoux, le sentiment une nouvelle fois qu'avec cette initiative, on est dans un texte qui polarise. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre fin à cette guerre aujourd'hui entre les pros, les anti, les pros piétons, on le voit avec les idées de 200 rues piétonnes, on a une nouvelle fois polarisé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se mettre autour d'une table et de discuter calmement ?
Oui, je crois que la question fédératrice, elle doit maintenant arriver dans le débat genevois si on veut pouvoir avancer et construire. Parce que quand les uns proposent quelque chose, les autres s'y opposent par principe. Alors c'est sûr que c'est toujours difficile, notamment quand on lance une initiative, d'avoir toujours les bonnes idées, d'être parfait, et il y a toujours des choses qui sont perfectibles. Je crois qu'à un moment donné, à Genève, on doit aussi accepter qu'on puisse avancer, pouvoir se tromper. Ça, je crois qu'on doit aussi accepter si on se trompe, mais on doit pouvoir avancer. Et de faire une agglomération des petites contraintes qui gênent les uns et les autres pour arriver ensuite à une majorité, ça je crois que c'est un des vrais soucis de Genève. Je crois qu'on se doit d'être aussi un petit peu ambitieux, de tenir compte de cette ville qui est une ville magnifique, qui est enviée par toutes les autres villes du monde qui est Genève, et on doit aussi se donner les moyens de pouvoir maîtriser ce développement, cet accès, et je crois que la question de la mobilité douce et de se donner les moyens de fonctionner me paraît essentielle. On a fait faire une petite étude au niveau de Plan Léouat et notamment sur la question des Sherpines, de la proximité en mobilité douce, à pied et en vélo de ce secteur-là. À moins de 20 minutes en vélo, on touche 200 000 personnes. Donc c'est juste pour vous dire que Genève est vraiment très petit et que la question de déplacement qui peut être sécurisé et aménagé en vélo et à pied peut tout à fait amener des solutions innovantes sur notre canton. Il s'y prête. Alors ça peut être un désavantage, on sait que notre territoire est petit, mais ça peut être aussi un avantage.
Alain Mellan, on fait parfois des débats pour essayer de comprendre pourquoi la droite ne parvient pas à gagner à nouveau dans les exécutifs des grandes villes suisses, et en particulier sur la Clémanique aussi, Lausanne-Genève. Est-ce que c'est pas là justement ce soir ce genre de débat, la solution ? Est-ce que vous ne devriez pas changer complètement de regard et dire c'est là, faut franchir ce pas-là, faut qu'on fasse comme font actuellement nos voisins verts libéraux.
Je pense que, en tout cas, les partis, le PLR, le parti centre-droite, on peut appeler, ont probablement effectivement quelques problèmes à faire valoir ses objectifs et son essence même dans les centres urbains. C'est peut-être un pan c'est peut-être une réponse à une amélioration un petit peu de l'image que l'on peut avoir des objectifs de notre parti. Néanmoins, je pense que c'est de loin pas le seul. Je crois que là, ça dépasse le cadre de la mobilité, de savoir de quelle mesure on est et pourquoi on est peut-être moins représenté maintenant dans les centres urbains. Mais encore une fois, je crois qu'au-delà du discours, à titre personnel, je me rends au travail au centre-ville. J'habite dans un petit village à 8 km de la ville de Genève et je viens la plupart du temps en vélo. C'est pour vous dire aussi qu'on n'a pas de tabou non plus au sein de notre parti. Et quand il s'agit de faire aussi dans nos milieux des accords, on sait les faire. Je vous rappelle simplement que j'étais un des grands artisans de l'accord dit de la Place Neuve à l'époque à Genève, où on avait mis tout le monde d'accord, Madame Burnand, maire socialiste de la ville, Monsieur Ramseyer, qui était le conseiller d'État radical de l'État, l'association de transport et environnement et les milieux, je dirais, du transport. On avait réussi à faire un grand accord pour les transports publics.
Avec un parking.
Avec un parking.
Et c'était refusé.
Et une place piétonne, et des places piétonnes avec la mobilité. mobilité douce au centre-ville. Donc vous dire et nous dire maintenant que l'on n'est pas prêt à pouvoir faire ce genre d'accord, je crois qu'il faut aussi des fois rappeler un petit peu l'histoire.
Et c'est sûrement pour ça qu'on vous appelle Monsieur Mobilité en ville de Genève, Alain Mélan. Je vous remercie beaucoup. Alain Mélan, député libéral au Grand Conseil. Laurent Seydoux, merci également, président des Verts libéraux genevois. Très bonne soirée.
Éric Fauchère, la météo.
La journée s'est progressivement couverte sur notre pays et des averses ont pu se produire par endroits, mais plus abondamment sur les reliefs. Quelques gouttes pourront encore tomber, surtout sur les massifs alpins ce soir. Sinon, le ciel connaîtra une accalmie, mais la couche nuageuse restera de mise. Le courant du nord continuera en effet d'alimenter notre ciel en nébulosité demain encore, avec un temps connaissant quelques moments de soleil en pleine. Des averses se produiront le matin de manière isolée et elles seront plus nombreuses l'après-midi. Le mercure avoisinera les 7 degrés au lever du jour et culminera à 17 au maximum. Vendredi sera assez similaire, la couche nuageuse restera présente sur nos régions, mais des rayons de soleil pourront se frayer un chemin au-dessus de la plaine. Sinon, quelques averses se produiront déjà en matinée, l'après-midi elles se feront plus nombreuses, il fera au maximum 18 degrés. Samedi et dimanche retrouveront un soleil assez présent, les cumulus traditionnels se formeront en montagne et pourront amener quelques averses localement en fin de journée. Il fera jusqu'à 21 degrés.
La météo avec Belflore, les terreaux de Suisse romande pour vos plantes, Belflore. Suisse.ch.
Infotrafic RSR
avec le Tour de Romandie et Vaudois Assurance.
En Valais, suite à l'incendie de forêt, l'autoroute A9 entre Brigue et Viège-Est ainsi que la route principale entre Viège-Est et Eyholtz restent fermées en direction de Sion. Les automobilistes sont déviés par l'Alden, tandis que les poids lourds peuvent passer par Gamsen. Toutefois, il reste conseillé d'éviter ce secteur car la circulation s'y écoule très difficilement. C'est la fin de cette édition de Forum. Merci en particulier à Séverine Ambrus, l'édition Jean-Bernard Pfoulgue et Ottavio Arojo, officier à la technique. Il est 19h sur la première. Excellente soirée à tous.